Bah, ma première compétition, c'était l'année d'après que j'ai commencé. Mais une petite compétition en Alsace. Donc, j'ai commencé en Alsace. Et moi, j'ai fait la compétition, mon frère aussi. Mais vraiment, en tant que débutant, limite, on ne connaissait pas les règles et on y allait. Bah, limite, on ne les connaissait pas. On a dû apprendre des choses sur le tas pour faire la compétition. Je me suis fait une rouste. J'ai fini dernier, je crois, ou avant-dernier, un truc comme ça. Et à partir de ce moment-là, où j'ai fini dernier, je me suis dit, OK, ce que tu as fait, c'était nul. Plus jamais il va se passer un truc comme ça. C'est un peu la sélection en équipe de France, c'était un peu compliqué parce que les sélections se font un peu chaque année. L'accès en équipe à cette époque-là, pour entrer en équipe de France, c'était très compliqué parce qu'il fallait vraiment être dedans déjà, ou avoir un niveau vraiment hors norme par rapport aux autres, ou être déjà dans ce moule de grimpeur de haut niveau. La personne, l'entraîneur là, qui m'a fait rentrer dedans, qui s'occupait de moi, ben, il s'est occupé de moi pendant 2 ans. Et après, j'ai repris mon entraînement en main.
Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremaux, voyageur et aventurier à mes heures perdues. J'ai créé le podcast Un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre 1 heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Mickaël Mahouem. Bonjour Mickaël.
Salut, salut.
Merci de prendre ce temps Mickaël, entre tes entraînements d'escalade. Est-ce que tu pourrais, pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter s'il te plaît?
Ouais, bien sûr. Bien sûr, bah, du coup, comme tu l'as dit, je m'appelle Mahouem Mickaël, j'ai 29 ans, bientôt 30. Ma spécialité, c'est l'escalade. Donc je suis en équipe de France d'escalade. Ça fait depuis 2014, 13, ouais, depuis 2014, voilà, ça fait un petit moment déjà.
Ouais.
Et là, actuellement, bah, je fais partie des deux sélectionnés français aux Jeux Olympiques, hommes en tout cas, avec mon frère aussi, donc on est les frangins qui vont aux Jeux Olympiques. Et voilà, ouais. Voilà, c'est un bon résumé parce que clairement, dans ma vie, je fais pas grand-chose d'autre à part de l'entraînement, de l'escalade et des compétitions. Voilà.
Comment ça commence du coup l'escalade pour vous?
Ça a commencé par hasard, vraiment par hasard. L'escalade, bah, mon frère, il a commencé une année avant moi. Il est plus grand, il a 6 ans de plus que moi. Et il a commencé une année avant moi. Donc, si je ne dis pas de bêtises, en 2002, voilà, il a commencé. En 2002, non, en 2001. Et du coup, il a essayé l'escalade par hasard. Je crois que c'est l'UNSS, ouais. C'est l'UNSS qui lui a fait découvrir. Un ami qui lui a dit pourquoi pas, on va essayer à l'UNSS. Et il a essayé comme ça. Sachant que de base, il était déjà très sportif. Moi aussi, on a toujours fait pas mal de sport, de l'athlé, de la gym, du foot. De la musique, on a fait aussi, voilà, on a fait pas mal de choses. Enfant, on adorait bouger, faire des choses. Et lui, quand il a découvert l'escalade, via le biais de l'UNSS, il a vraiment accroché, ça l'a plu. Et derrière, bah, il en a fait une année. Et après, il m'a amené essayer l'escalade. Et moi, en tant que petit frère, on s'imaginait que cette époque-là, j'avais 11 ans et lui, il en avait 16, il allait sur ses 17, faire quelque chose avec son grand frère presque adulte, c'était vraiment cool. Donc, je suis allé, bien sûr, hein, je suis allé essayer l'escalade, mais ça m'a vraiment plu aussi. J'ai été vraiment. Ben, le fait qu'il y a mon frère, c'est ce qui était top, c'est que il y a eu. J'ai toujours voulu montrer à mon frère que ce que je faisais, je le faisais bien. Donc, je suis arrivé, je faisais quelque chose avec mon frère. En plus, je me sentais très bien, je pouvais lui montrer. Que je me débrouillais dans quelque chose. Et du coup, ça, j'ai pas arrêté, en fait, depuis. Et petit à petit, ben, on s'est ensemble motivés à continuer et à aller chercher aller chercher à être là, là ouais, où on en est aujourd'hui, quoi.
Ça commence quand les compétitions pour toi, du coup, c'est quand les premières compètes?
Bah, ma première compétition, c'était l'année d'après que j'ai commencé. Mais une petite compétition en Alsace, ah ouais. Donc j'ai commencé en Alsace. C'était une petite compétition de club, j'en ai encore des photos de ça là, de ma première compétition. Mais en fait, on a toujours aimé les challenges. On n'a jamais fait quelque chose dans le simple but de s'amuser ou se divertir, où il y a toujours eu un but derrière. Et souvent, le but, c'était un challenge d'être meilleur que certaines personnes ou d'être le meilleur que tout le monde, le meilleur de tous. Ou avoir la plus belle voiture, ou avoir la plus belle maison. Bon, on l'a pas, mais mais on a toujours été comme ça dans le challenge. Et dès qu'on a commencé l'escalade et vu que ça nous a plu, ben dès qu'on a entendu qu'il y avait des compétitions, on y allait. Et donc la première compétition, elle se passait dans notre club, donc à Uningue, c'est près de la frontière suisse et allemande. Et ça se passait là-bas. Et moi j'ai fait la compétition, mon frère aussi, mais vraiment en tant que débutant, limite on ne connaissait pas les règles et on y allait, limite on ne les connaissait pas, on a dû apprendre des choses sur le tas pour faire la compétition. Je me suis fait une rouste, j'ai fini dernier je crois, ou avant-dernier, un truc comme ça. Et à partir de ce moment-là, où j'ai fini dernier, je me suis dit, ok, ce que tu as fait c'était nul, plus jamais il va se passer un truc comme ça. Et après, j'étais nul parce que je ne les connaissais pas. Je venais de commencer. J'étais contre des personnes qui avaient de l'expérience, et même jeunes, hein, mais qui savaient faire, quoi. Et moi, je ne savais pas du tout. Du moment où il s'est passé ça, je me suis dit plus jamais. Et les 5 années après, toutes les compétitions que j'ai pu faire, donc plutôt dans la région, Alsace, dans le département du Haut-Rhin, dans la région ou dans les régions autour, j'ai toujours fini premier ou deuxième. Après ça, quoi. Et vraiment, à partir de ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait, en tout cas le niveau en Alsace et dans les régions autour, avec mon frère, on a vu que le niveau, c'est bon, on était au-dessus de tout le monde. Et on s'est dit, ok, là, il faut aller voir ce qui se passe ailleurs parce que là, on est, on n'a plus de repères, quoi. On n'a plus de repères de qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, on est allé voir ailleurs à partir de là, quoi.
C'est où ailleurs? C'est autre part qu'en Alsace ou c'est autre part qu'en France?
Ouais. D'abord, moi, j'étais en première, donc j'avais 16 ans. Mon frère, il a décidé de partir à Clermont-Ferrand pour faire ses études de moniteur d'escalade. Et du coup, moi, j'étais au lycée. Et en partant, et là-bas, sachant que c'était une région où il y avait quelques grimpeurs très forts et une salle à Clermont-Ferrand où il y avait deux grimpeurs qui étaient en équipe de France, qui grimpaient là-bas. Et donc, lui, il allait rejoindre là-bas donc avec des connaissances. Sauf qu'il a dit à mes parents, j'amène Mickaël. Et j'amène Mickaël avec moi, si vous le voulez, bien sûr. Et je m'en occuperai de lui. J'ai pu aller en cours et m'entraîner, quoi. Et m'entraîner avec du niveau autour. Et on a vraiment, à partir de cette année-là, on a vraiment remarqué que pour être les meilleurs, il va falloir vraiment tout donner. Vraiment tout donner pour... Et là, on a commencé à mettre notre vie en place pour faire en sorte qu'un jour, on peut devenir les meilleurs. Et à partir de 2006, là, que tout a commencé, la réflexion de dire comment on va faire pour faire que ça, quoi. Pour être les meilleurs du monde, comment on va faire, quoi. Et donc là, à partir de là, on a fait une année à Clermont-Ferrand. Après, lui, il est parti une année à Grenoble. Moi, je suis retourné en Alsace. Après, il est allé à Nancy. J'étais aussi à Nancy. Après, je suis allé à Paris. Il m'a rejoint à Paris. C'était le début d'une grosse histoire à Paris. Et maintenant, je suis à Voiron au pôle olympique. Voilà.
Attends, Voiron, c'est où pour ceux qui ne connaissent pas?
C'est près de Grenoble. Près de Grenoble, entre Grenoble et Lyon, exactement. Je suis à 45 minutes de Lyon et à 20 minutes de Grenoble.
Ah non, c'est en plein milieu de... Plein milieu.
Ouais, exactement en plein milieu. C'est plutôt bien situé, hein. C'est plutôt bien situé pour le coup. Là, le pôle France, là, il est dans un lieu d'espace, un ancien Krebs où il y a les murs qu'il faut pour s'entraîner et surtout pour la discipline aux Jeux Olympiques, il y a ce qu'il faut. Et à Lyon, il y a pas mal de salles pour avoir du changement et c'est pas très loin, donc du coup, c'est assez bien. Et à Grenoble, il y a quelques petites choses à faire. Il y a les montagnes tout autour. Moi, je grimpe pas trop en montagne, mais il y a les montagnes tout autour, pour grimper ou pour faire de la rando, de l'alpinisme, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est plutôt bouger, c'est assez central. Donc c'est plutôt top.
Tu dis que tu as effectivement très vite intégré l'équipe de France. Tu saurais dire quand, comment, qui c'est qui t'a repéré ?
Je me suis repéré tout seul. Non, en fait, ça, c'est un peu la sélection en équipe de France, c'était un peu compliqué parce que les sélections se font un peu chaque année. Il y a la sélection, en gros, comment ça s'est passé ? Donc, c'était en 2013, c'était une saison. Donc, moi, bien sûr, je m'entraînais de mon côté avec mon frère, on s'entraînait ensemble comme des barbares pour essayer de devenir les meilleurs, pas pour essayer d'aller en équipe de France, c'est pour devenir les meilleurs du monde. Mais bon, avant ça, il faut être en équipe. Et en gros, l'accès en équipe à cette époque-là, pour entrer en équipe de France, c'était très compliqué parce qu'il fallait vraiment être dedans déjà ou avoir un niveau vraiment hors norme par rapport aux autres ou être déjà dans ce moule de grimpeur de haut niveau. Et parce que c'était les sélections, c'est les entraîneurs qui mettaient, les entraîneurs nationaux qui faisaient les sélections. Et donc, ils se fiaient à ce qu'ils voyaient et à ce qu'ils voyaient autour d'eux. Ils n'allaient pas forcément chercher à gauche à droite des nouvelles personnes ou faire des sélections. Faire des sélections, c'était plutôt là, on a vu qu'il était fort, allez toi, viens faire 2-3 compètes, on va voir si on te garde, quoi. Donc, l'accès, il était presque impossible, quoi. Il y avait une équipe de fait et c'était presque impossible. Une fois par an, il y avait des places, quoi. Et en 2013, ce qui a changé, c'est que les entraîneurs qui ont repris, ils ont changé un peu le système. Et bien sûr, il y avait ceux qui étaient sélectionnés, déjà via leurs résultats de l'année d'avant, mais qui faisaient vraiment des très bons résultats. Et les autres, du coup, ils réouvraient les places. Donc, ça laissait 2-3 places chaque année. Et à partir de 2013, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une… En fait, en 2013, il y a eu une Coupe du Monde en juillet, fin juillet, une Coupe du Monde d'escalade en France, à Laval, dans l'ouest de la France. Et quand il y a une Coupe du Monde dans le pays hôte, on a 10 places, un peu plus même, il y avait même un peu plus, 10 places. Et donc à partir de là, ce moment de ces 10 places, donc la fédération, ils vont donner les places aux meilleurs, bien sûr, mais après il y a plein de places à donner, et ils vont ouvrir les critères plus larges. Et il y avait des critères sur les Coupes de France. Donc les Coupes de France, c'est un peu comme un Tour de France. On a plusieurs étapes partout en France. T'as un résultat à chaque étape et après ils font une moyenne et il y a le vainqueur en gros. Et en gros, le vainqueur des étapes de Coupe de France de l'année, donc qui a fait le meilleur résultat en général, il pouvait accéder à cette Coupe du Monde en France. Et donc moi cette année, du coup, vu que tout le monde était déjà sélectionné en Coupe de France, il n'y avait pas grand monde qui faisait les Coupes de France cette année. Et donc j'ai réussi une année à faire premier, deuxième, troisième sur les étapes et en fin de compte, j'ai gagné le général. Et donc, j'ai pu accéder à cette étape de Coupe du Monde sans jamais avoir été préparé pour physiquement, comme mentalement ou autre. Ouais. Voilà, donc trop content. Hop, je vais rentrer en équipe de France pour une compétition. Oups, je vais rentrer en équipe de France pour une compétition. Mais bon, trop content, quoi. Donc, j'y vais et je fais une demi-finale. Je finis dernier de la demi-finale pour le coup. Mais plutôt dernier en montrant que j'étais capable de faire bien mieux. Et donc, bien sûr, il y avait les entraîneurs nationaux qui étaient là, les autres de l'équipe. Bon, les autres, je les connais, côtoyais un peu, je les connaissais un peu, mais les entraîneurs nationaux, ils étaient là. Et ils regardaient, quoi. Ils regardaient. Et en sortant de la compétition, à la fin de la compétition, 2 semaines après, je suis allé les voir. Je suis allé les voir parce que c'est pas eux qui m'ont appelé ou autre. Je suis allé les voir. J'aurais dit, on peut se donner un rendez-vous, boire un café et discuter. On s'est donné rendez-vous devant une salle. Et je leur ai dit, je veux être le meilleur du monde. Je leur ai dit en face de moi, je veux être le meilleur du monde. Et pour ça, j'ai besoin d'être au pôle, en fait, au pôle France, de pouvoir accéder au pôle France. J'ai pas dit que j'ai besoin d'être en équipe de France. J'ai besoin d'être au pôle France, d'accéder aux meilleures structures. Le meilleur moyen qu'il y a en France, en tout cas pour être le meilleur. Et eux, bon, ils savaient, ils nous connaissaient quand même, les Maouem, notre motivation de l'entraînement, comment on a toujours été acharné dans ce qu'on faisait. Comme je te disais, on a toujours aimé les challenges, donc on mettait tous les moyens possibles. Et donc, ils ont dit, OK, c'est parti. Et donc, il y a un des entraîneurs qui m'a pris en main pendant une année. Et ça m'a pendant une année, pendant 6 mois, avant les premières sélections, en fait. Et mais bon, clairement, j'avais beaucoup de choses à rattraper, mais surtout techniquement, parce que le physique, je l'ai beaucoup entraîné avec mon frère, et techniquement, et eux, ils m'ont beaucoup apporté ça, en fait, la qualité de grimpe. Et en 6 mois, je suis rentré en équipe de France, j'ai pris ma place en sélection, je suis rentré en équipe de France. Et en ayant tout changé, réduit le travail presque au minimum, minimum pour vivre, mettre tout pour l'escalade. Et je suis rentré en équipe de France. La première année, les deux premières années, en fait, il y avait autour de 2 sélections par année. Et j'ai fait toujours toutes les sélections. Et j'ai toujours fini premier ou deuxième. Donc, j'ai toujours pu faire des étapes de Coupe du Monde sans forcément faire de gros résultats, puis en faisant des demi-finales, tout ça, mais en prenant de l'expérience. Et en fait, après, depuis ce jour-là, en fait, j'y suis resté. Je suis resté et j'ai continué à être investi. Et je suis dedans depuis. Et bon, la seule différence, c'est que l'entraîneur là, qui m'a fait rentrer dedans, qui s'est occupé de moi, il s'est occupé de moi pendant 2 ans. Et après, j'ai repris mon entraînement en main.
Et ton frère, dans l'histoire, il t'a suivi? Comment est-ce qu'il a... Parce que finalement, vous avez quand même un niveau quand même assez similaire. Comment il a fait? Est-ce que c'est toi qui l'as rattrapé, lui qui t'a rattrapé?
Non. Lui, il était en fait un peu avant. Lui, en fait, de base, la discipline que je fais actuellement, c'est la discipline qu'il faisait. Et il essayait de rentrer... moi, c'était en 2013, mais lui, c'était un peu avant où il essayait. Il était toujours un peu plus fort que moi. Il a toujours été plus fort que moi dans la discipline qu'on faisait. Et sauf que lui, il était vraiment dans cette époque-là pour entrer en équipe de France, c'était difficile, quoi. Lui, il a eu un changement, en fait, en 2012 plutôt, ouais. En 2012, on lui a proposé, un peu avant 2012, on avait des compétences physiques quand même assez différentes des autres. C'est qu'on avait beaucoup bossé le physique, l'explosivité, la vitesse et la fédération voulait se rentrer dans parce qu'il y a 3 disciplines, voulait se rentrer dans la vitesse, mettre des athlètes en vitesse, il y en avait très peu. Et ils ont proposé à Bassa où ils ont remarqué qu'il avait les compétences physiques, les aptitudes en tout cas pour performer, et ils lui ont proposé de faire cette discipline. Et donc il a accepté, comme un nouveau challenge, il a accepté. En plus, il avait pas mal de soucis aux doigts, tout ça, qui pouvait l'empêcher de progresser, et c'était la bonne discipline. Et donc, à ce moment-là, il a changé de discipline. Et il a changé de discipline au moment où moi, je le rattrapais, en gros. où je le rattrapais un peu à son niveau. Et donc, voilà, on ne s'est jamais, en fait, on s'est beaucoup entraîné ensemble. Mais après, dès qu'on a commencé notre carrière en équipe, il a commencé un peu avant, mais en vitesse. Et moi, je l'ai commencé un peu après, mais en bloc. Voilà. Et ce qui nous a réunis, c'est les dernières années avec les Jeux Olympiques. Parce qu'il y a une nouvelle discipline, c'est un genre de triathlon.
Ok. Tu nous referais peut-être une petite parenthèse rapide sur les épreuves. Pour ceux qui ne connaissent pas, tu pourrais nous réexpliquer comment elles fonctionnent.
Bien sûr. Il y a donc la première des disciplines, en tout cas en Europe de l'Est, ça va être la difficulté, on l'appelle. Donc, c'est la voie avec une corde. Donc, c'est toujours sur des murs artificiels, hein, sur des voies qui vont monter donc en compétition de 15 à 20 mètres de haut, qui vont plutôt être très, très penchées. l'objectif, c'est qu'on a une voie, donc une route, un tracé, on peut appeler ça aussi, et on doit, le but c'est d'aller le plus haut possible. Voilà, ça va être une difficulté. Ils vont faire en sorte, les personnes qui créent ce tracé-là, ils vont faire en sorte que le chemin soit difficile, très difficile au niveau de techniquement, mais physiquement aussi. L'athlète doit arriver sur la dernière prise pour valider la voie ou arriver le plus haut. Voilà, c'est comme ça qu'ils mettent les résultats en place. Après, donc ça, c'est la discipline. Après, il y a le bloc. Le bloc, c'est exactement la même chose, sauf que ça ne va pas être sur 15-20 mètres. Ça va être plutôt, et on ne sera pas encordé. Il n'y aura pas de baudrier, pas de corde, rien. On va être sur 5 mètres de haut maximum. Il y aura des tapis en dessous. Donc, il y aura des tapis en dessous. Et donc, le but, c'est à peu près pareil. Il y a un parcours. Il y a les prises de départ et les prises de fin. Et il faut faire en sorte d'arriver à la prise de fin. Et bon, là, sauf que si on tombe sur les tapis. Bon, ça, il faut faire attention de pas trop mal tomber parce que ça fait quand même bien mal. Et le but, voilà, c'est de les réussir. Et la personne qui le met en place, c'est un peu la même recherche. Il va chercher la complexité tout dans la force et la puissance. Et après, il y a la vitesse où ça est très simple. C'est un mur officiel qui a la même inclinaison, la même taille, donc il fait 15 mètres. C'est les mêmes prises, le même tracé tout le temps. C'est comme un 100 mètres. Et le but, c'est d'aller le plus vite possible au-dessus. Voilà.
Et celle-là, c'est celle que tu as fait ou c'est celle dans laquelle vous étiez en train de vous rattraper ?
Non, la vitesse, c'est celle que mon frère. Ouais, c'est celle que mon. La vitesse, c'est celle que mon frère fait actuellement et qui a changé. Nous, on faisait du bloc. À l'époque. Et moi, là, je l'ai rattrapé. Bon, là, j'ai même bien dépassé. Hein, c'est fini, ça. Mais moi, c'est ma spécialité, c'est vraiment le bloc et lui, la vitesse. Après, il a des très bonnes compétences en bloc, comme moi, j'ai des très bonnes compétences en vitesse aussi. Donc, on est plutôt polyvalent comme grimpeur.
C'est hyper intéressant. Mmh. Alors, moi, j'ai fait de l'escalade quand j'avais 14-15 ans. Je pense qu'au mieux de ma forme en club, CAF, tout ça, je faisais du 6 et plus.
Ouais.
Donc, j'étais très fier déjà avec ça.
Bah ouais, c'est pas mal.
On peut parler un peu de niveau avec toi, du coup, sur...
Ouais, bien sûr. Les niveaux, pour donner un peu une idée aux gens, ça commence du 3 au 9. Et après, il y a ABC, c'est des tranches. Donc, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, et ainsi de suite. Quelqu'un qui commence sans connaître l'escalade, il est plutôt dans un niveau 4-5. Voilà. Et pour 4-5, quand tu es dans le niveau 5, c'est que tu es déjà sportif, déjà de base. Et sinon, moi, je suis plutôt dans le 8-9, quoi. Voilà. Plutôt vers la fin, vers les derniers niveaux. Après, les niveaux, c'est très subjectif dans la compétition, parce que ils sont toujours à la recherche de nouveautés dans l'artificiel, dans tout ce qui est mur artificiel, de nouveautés, de mouvements inédits, de prises différentes, spéciales, spécifiques, et c'est pas des choses qu'on retrouve dans la nature, qu'on peut retrouver. Il y a 15 ans, quand t'allais en compétition, le genre de mouvement, le genre de prise, ça pouvait ressembler à ce qu'on retrouve en nature, dans falaise, mais plus maintenant, parce que maintenant, ils essayent vraiment de chercher une complexité. C'est comme une piste de BMX, quoi. Je pense qu'il y a 30 ans, la piste de BMX, elle était. C'était des petites bosses et c'était droit, et ils n'abusaient pas, quoi. Maintenant, ils mettent des murs, ils mettent des barres pour glisser, ils font des triples sauts, ils font plein de trucs parce qu'ils essayent de repousser un peu les limites et c'est ce qui se passe maintenant. Donc, la difficulté va être plutôt d'être très fort, très rapidement. Et c'est ça. Donc, on va plus parler de l'efficacité. C'est-à-dire qu'on va donner un problème qui n'est pas forcément extrême, mais qui va être dur, mais pas extrême. Mais il faut que tu arrives à le réaliser au premier essai ou en 5 minutes et le plus rapidement possible. Et c'est ça la difficulté de la compétition.
T'as déjà fait face à des niveaux quand tu te déplaces peut-être sur des compétitions internationales où on t'annonçait un 8A et en fait c'était un 8C où il y a une différence énorme là-dessus ou pas ?
Ouais, après on n'essaye pas de savoir parce qu'on sait que ça va être extrême. Le but c'est que ça départage les plus forts comme les plus faibles et donc ça va être extrême. Et on a un niveau au niveau, on est tous à un niveau extrême. On est un peu tous à un très très gros niveau. Quand on fait des compètes, des coupes du monde ou des internationales, la plupart ils ont déjà un niveau de base énorme et il faut pas se poser la question parce qu'en fait la personne, moi je vais te dire que c'est un 8A mais en fait j'ai pas les mêmes aptitudes que l'autre personne qui est à côté de moi, lui va te dire que c'est un 8A aussi mais bien plus dur que l'autre parce qu'il préfère les petites prises et moi je préfère les moves physiques et c'est une voie plutôt physique ou c'est un bloc plutôt physique, donc ça va dépendre des aptitudes de chacun. Du coup, on se parle pas trop de la difficulté. Hein. On veut être premier et on fait en sorte d'arriver tout en haut et de tout réussir. Quoi. On est capable de tout faire, en tout cas.
Tu disais qu'effectivement, les sélections du coup pour les Jeux Olympiques avaient été faites. Alors malheureusement, les JO sont décalés d'un an. Est-ce qu'avec le temps de confinement, selon toi, c'est un soulagement d'avoir plus de temps pour t'entraîner ou au contraire, plutôt une déception de dire que c'est re dans un an ?
Moi c'est plutôt un soulagement hein, parce que ça met une équité avec tous les sportifs parce que tout le monde n'a pas pu s'entraîner pareil en tout cas dans les mêmes conditions pendant cette période là du confinement parce que tout le monde n'était pas confiné en même temps, il y en a ils ont été confinés une semaine, d'autres deux semaines, d'autres un mois et demi, d'autres le sont encore. Voilà, donc c'est tant mieux pour les athlètes et tant mieux pour la compétition sportive parce que le but d'une compétition, c'est de voir tout le monde à son niveau, quoi, à son niveau max. Et moi, le fait que moi et mon frangin, en tout cas, le fait que ça soit décalé, on était plutôt contents parce que ça nous laisse du temps en plus pour s'entraîner, en fait. Et de s'entraîner, d'aller peaufiner certains détails qu'on n'a pas vraiment eu le temps de faire ou qu'on a laissé de côté. Et il faut juste avoir la motivation de s'entraîner encore une année autant, mais ça on l'a, donc tant mieux pour nous, tant mieux pour d'autres et tant pis pour certains.
Est-ce que peut-être, petite parenthèse sur la compétition aujourd'hui, c'est qui les plus gros concurrents que vous avez en face de vous? C'est des Français ou c'est des gens étrangers? Comment ça se passe?
En général, là, clairement, c'est les Japonais. Les plus gros concurrents, c'est les Japonais, chez les gars comme chez les filles. Après, dans chaque pays, on a des personnes très fortes. Après, on va dire les Japonais, ils ont une grosse population de personnes fortes. Ils n'en ont pas que un ou deux, ils en ont plein. Nous, en tant que Français, on est quand même une bonne population avec des grimpeurs forts. Et après, il y a plein de nations comme la Slovénie, la République tchèque, l'Allemagne, l'Espagne, qui ont un ou deux grimpeurs grand maximum. Voilà. Et la plupart du temps, c'est un qui vraiment a haut niveau. Donc, on va dire ouais, le pire, c'est les Japonais, mais bon. Franchement, après, quand on se retrouve tous ensemble, chacun se bat contre soi-même et on ne se bat pas contre les autres. Hein. On se bat pour être le meilleur de soi-même et c'est ça qui est le plus dur.
Tu disais qu'à l'époque, c'était difficile de rentrer en équipe de France. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que tu y es depuis quelques années, tu es content que ce soit difficile, qu'il n'y ait pas de nouveaux qui viennent te remplacer?
Non, mais parce qu'ils ne viennent pas me remplacer parce qu'ils ne passent pas forcément devant. Ils ne passent pas forcément devant, donc... Donc je vais faire il y a plein de jeunes qui ont un gros potentiel mais qui l'utilisent pas très bien ou ils arrivent en fac à 18 ans et ils découvrent le monde de la fête et ça part un peu en fiesta et du coup niveau progression c'est limite. Donc le système là il est plutôt ouvert. Chaque année, je dois faire mes preuves et je les fais et voilà. Donc c'est pour ça que je suis en équipe. C'est à part l'année dernière qui était un peu spéciale, mais je suis en équipe via mes résultats et le fait de m'entraîner tous les jours au taquet et de mettre ma vie pour ça. Et je pense que c'est pour ça qu'ils comptent sur moi un peu la fédération. Quoi.
Ça ressemble à quoi du coup une journée type là? Typiquement, tu fais quoi le jeudi?
Une journée type, c'est je me lève à 7h. Je me lève à 7h du mat. Je prends mon petit déj qui dure à peu près une heure. J'aime bien me poser une heure le matin. C'est mon petit moment de solitude où j'ai pas ma copine, j'ai personne. J'ai pas de téléphone, d'SMS, de notification. Tout le monde dort. c'est le moment où je profite là, de 7h à 8h. Après, de 8h à 9h, c'est plutôt je commence à bouger, me préparer pour me réveiller en fait et pour arriver à 9h, 9h30 à la salle, en forme, bien réveillé. Et après, je m'entraîne. Donc, je ne peux pas donner un détail de mon entraînement parce que c'est changeant un peu tout le temps. Mais du coup, je m'entraîne de 9h à midi et demi. Donc, je fais une grosse session de 9h à midi et demi. Après, je prends à peu près une heure de repos et je rattaque du coup de 13h30 à 16, 17, 18h. Ça va dépendre des jours. Voilà. Et je rentre, je fais une promenade avec le chien, je mange, je profite de ma femme et je vais au lit et je répète ça le lendemain.
Et tu fais ça 7 jours par semaine? Non, tu fais ça que la semaine, tu te donnes un week-end quand même?
Je fais ça, ce rythme-là, et je le fais que 5 jours dans la semaine. Mais en fait, c'est le haut niveau, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le haut niveau. Il n'y a pas de moment où tu te dis, ça, je peux le faire par plaisir. Par juste plaisir, en fait. Juste parce que j'ai envie. Quand tu manges quelque chose, tu te poses la question, est-ce que c'est bon pour le sport que tu vas faire demain ou dans 2 jours ou dans 3 jours? Quand tu vas te balader, tu te dis, est-ce que ça n'a pas trop de fatigué pour ta séance d'escalade? Quand je vais à la piscine, je me dis, pareil, est-ce que je ne vais pas avoir la peau trop ramollie ou les muscles trop ramollis pour m'entraîner? Si je me couche à minuit, est-ce que ça ne va pas avoir des conséquences sur ma séance ou sur mon jour de repos? Voilà, donc un jour de repos, c'est un jour de repos, il ne faut pas faire trop de choses. Donc voilà, tout passe par là, en fait. Il n'y a pas vraiment de jour de repos, réellement. Il y en aura quand j'arrêterai le haut niveau. Après, c'est pas comme ça pour tout le monde, hein, mais c'est ma vision des choses. Et celle de mon frère aussi.
Et tu es accompagné par exemple, un nutritionniste ou par quelqu'un qui te coach sur le mental? Tu as des gens effectivement qui vous suivent là-dessus?
Nous, on est très autodidacte. On a été autodidacte un peu sur tout avec le frangin. C'est que, comme on a dit, on a pris des coups de main, d'aide à gauche, à droite, des entraîneurs nationaux, des entraîneurs, de préparateur mental, de nutritionniste, on a pris des coups de main à gauche à droite pour grandir, pour évoluer, pour se connaître, mais on a tout construit nous-mêmes, en fait. On a tout construit nous-mêmes et on a une autonomie et on a toujours eu cette autonomie de pouvoir gérer notre nutrition. On a travaillé pour, on s'est renseigné, on a essayé pendant pas mal d'années. Chaque année, on change des choses. Pour la prépa mentale, pareil, ça m'est arrivé de faire pendant un mois de la prépa mentale. Et après ça, je me suis dit, OK, il y a ça que je peux faire tout seul, il y a ça que je peux faire tout seul. Voilà. Et ça, on s'est formé un peu à tout pour pouvoir le faire tout seul. Et c'est ce qui se passe maintenant. Aujourd'hui, je suis au Pôle France. Je m'entraîne tous les jours au Pôle France, mais je ne suis pas entraîné par les entraîneurs nationaux qui sont là. Je suis un peu en roue libre ici. Je ne vais pas dire que je fais ce que je veux, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin parce qu'ils savent que je fonctionne comme ça. Et surtout qu'ils n'ont pas la capacité de s'occuper de moi, parce que j'en demande beaucoup. Alors, j'en demande beaucoup, j'ai beaucoup de besoins. J'ai beaucoup de besoins. Et eux, ils ne peuvent pas les satisfaire, donc je me les satisfais tout seul.
tu nous expliques un peu comment fonctionne votre page Facebook, là, que vous avez commencé? Ça commence quand? C'est quoi le rythme que vous mettez? Qu'est-ce que vous postez?
Ouais, en fait, les réseaux sociaux en général, que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, tout ça, en fait, tous ces réseaux, on les a tous utilisés et on les utilise énormément. Déjà, ça a commencé en tant que simple loisir, pour s'amuser un peu, montrer un peu aux gens ce qu'on fait, parce que c'est joli à voir et c'est impressionnant et ça mérite de montrer ça aux gens. Et après, ça a été un énorme besoin pour pour avoir des sponsors. Parce que des marques qui nous suivent, qui nous représentent, qui ont représenté des marques, c'est où tu es le meilleur du monde, il t'a rien besoin de faire et les gens viennent vers toi, ou il faut une image. Et nous, on a décidé de mettre l'image en avant, notre image, nos valeurs, notre vie en avant, notre côté énergétique pour leur montrer tout ça, faire connaître notre sport et pour pouvoir essayer d'en vivre, en fait, et que ça devienne... qu'à un moment, on se dit, le boulot, c'est optionnel, quoi. Le boulot, quand je parle du boulot, je parle du boulot bureau, ou du boulot chantier, ou du boulot où tu n'as pas un mur d'escalade devant toi, quoi. Et du coup, pour éviter ça, on a bossé beaucoup sur les réseaux. C'est ce qui nous a permis d'avoir des sponsors, qui nous soutiennent. Donc, au début, c'était très peu. Hein, ils nous soutenaient au niveau matériel, mais bon... Une paire de chaussons, ça coûte 120, 130 euros. Et tu en as besoin à mon niveau, tu en as besoin d'une par mois, quoi. Une toutes les mois et demi, quoi. Donc, y a le prix du matos, les déplacements, tout ça. Donc, ça a pris pas mal de choses en place. Ça a pris pas mal de choses. Et on a continué à le faire évoluer parce qu'en fait, c'est ce qui nous fait vivre maintenant. En fait, ce qui nous fait vivre actuellement, moi, je ne travaille pas grâce à ça, grâce au réseau, grâce à nos images. Après, c'est du boulot, on l'a construit, mais on continue à le construire. Et derrière ça, on partage à fond nos valeurs sur nos réseaux, et on essaie de donner un maximum de motivation, à montrer aux gens qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour y arriver, parce qu'on peut se construire nous-mêmes, et c'est ce qu'on essaie d'amener aux gens. Ce côté où c'est pas facile de réussir, il faut se donner les moyens, il faut bosser, Et même si on n'a pas été à l'école, même si on ne travaille pas dans un bureau, ce qu'on fait à l'entraînement, on est payé pour faire du sport, mais on bosse. On bosse et on bosse toute l'année. On ne bosse pas, on n'a pas 5 semaines de vacances. On en a une de vacances et on bosse toute l'année. Et on essaie de mettre ça en place, faire découvrir notre sport, donner de la motivation, bien sûr représenter toutes les personnes qui nous aident. Et c'est un tout maintenant, en fait, c'est un tout. Et c'est même plus une question de choix, on le fait parce que là, aujourd'hui, nos sponsors nous donnent assez pour qu'on puisse vivre. Voilà, on ne flambe pas, on vit simplement. Mais y a beaucoup de gens qui nous suivent et qui sont, ça leur donne de la motivation pour s'entraîner, à garder la forme ou à aller au boulot et être au taquet parce qu'ils sont surmotivés. Et on continue à le faire pour ça, parce que ça fait rêver des gens et ça sert à ça les raisons. Hein, ça sert à ça les raisons.
Justement, j'ai de plus en plus de personnes qui, dans mon réseau d'amis, me disent je vais à l'escalade. Donc il y a de plus en plus de salles qui ont été créées, je trouve, dans les peut-être 5-6 dernières années. Tu constates ça aussi?
Ouais, totalement. En fait, il y a beaucoup de salles de bloc qui ont poussé. Pourquoi? Parce que c'est accessible. C'est vraiment un sport accessible à tout le monde. On a souvent l'image de l'escalade, c'est la falaise, des grandes voies très hautes. Il faut connaître toutes les manips de cordes, être accompagné d'un guide de montagne. Mais en fait, c'est plus ça. Oui, il y a ce côté-là qui existe encore, bien sûr, où il y a besoin de beaucoup plus de connaissances. Mais il y a le côté accessible de la structure artificielle où tu viens et tu as besoin juste d'un jogging et tu chopes des prises et tu montes jusqu'en haut, quoi. On a réussi, grâce au bloc, à rendre l'accessibilité à l'escalade au grand public, comme aux enfants, aux petits, aux ados, aux adultes, aux grands, aux personnes fortes, aux âgés, aux personnes âgées, aux handicaps, à ceux qui ont des handicaps. Tout le monde peut en faire et les gens le remarquent petit à petit. C'est pour ça que ça grandit, en fait. Et que donc les salles ouvrent de plus en plus et que des gens investissent dans des salles pour en construire, parce qu'ils ont vu que tout le monde peut en faire. Et maintenant, il faut juste continuer à en communiquer pour que ça grandisse et que vraiment plus personne se pose la question qu'est-ce que c'est l'escalade, comme le foot, quoi. On se pose plus la question de comment ça marche, le foot. Voilà, on sait comment ça fonctionne, quoi. Même si t'aimes pas le foot, tu sais comment ça fonctionne, quoi.
Ouais, bien sûr. Petite parenthèse sur les sponsors rapidement là. En termes de matos, qu'est-ce que tu utilises comme matos, toi, aujourd'hui?
Principalement, j'utilise des chaussons d'escalade, plusieurs, des paires différentes, souples, rigides, autres en fonction de ce que je fais. Donc, du bloc, de la vitesse, la difficulté. Déjà, en fonction de la discipline, les chaussons sont un peu différents. Et en fonction du style, par exemple, en bloc, du style du bloc ouvert, le chausson utilisé va être différent. Donc, il y a ça, la magnésie. La magnésie, c'est un des outils les plus importants. En fait, ça te limite la transpiration, au niveau des mains. Et c'est pas magique, ça dure, t'en mets et ça dure pendant 5 minutes, hein. Ça dure plutôt pendant 2-3 mouvements, mais ça t'aide énormément. La magnésie et baudrier, quand je fais de la difficulté, une baudrier et corde pour se tenir en sécurité. C'est le matos principal. Et réellement, il n'y a que ça. Voilà, il n'y a que ça. Hein. Et après, le reste que j'utilise, c'est mon corps. C'est mon corps. Et c'est plutôt ce matos-là qui est le plus compliqué, quoi, à gérer.
Tu as des marques en particulier que tu conseillerais à ceux qui nous écoutent?
Clairement, niveau chaussons, moi, par exemple, j'utilise des Madrox. C'est une marque américaine spécialisée vraiment dans le matériel d'escalade. Il y a plein de grandes marques, et donc trois qui ressortent dans le marché, sur le marché. Et j'ai envie de dire, il n'y en a pas une meilleure que d'autres. Pour moi, il n'y en a pas une meilleure que d'autres. C'est le chausson qui va à ton pied. Il faut trouver le chausson qui va à ton pied. Et ça, c'est la grande difficulté. Moi, je les ai trouvés avec les Madrox. Mais avant ça, j'étais avec plein d'autres marques, lesquelles je n'ai pas trouvé. Et la question me le pose souvent. Quel chausson tu me conseilles? J'ai juste à conseiller aux gens. Les différents modèles qui peuvent être bien, mais va au magasin, va les essayer. Et il y a pas de, voilà, il faut les mettre pour se dire ok, je suis bien. C'est comme mettre des chaussures de running. Il y a celui qui connaît rien et en fait il va mettre n'importe laquelle et pour lui c'est des chaussures. Mais celui qui est un peu expert, il va voir que chaque marque, chaque modèle, il y a une petite chose différente et qui va être bien en fonction. Et pareil, donc niveau des chaussons. Je fais en fonction de vos pieds, quoi. allez essayer. Et après, j'ai envie de dire, tout le matos, c'est tellement personnel, à part le baudrier où il y a une grosse marque là chez laquelle je suis rattaché, Béal. C'est une grosse marque qui est dans le marché de l'escalade et dans tout ce qui est cordes, de remonter sur cordes, travaux. et ils sont vraiment poussés. Donc là, c'est du matériel plutôt très technique et très bien. Mais tout ce qui est utilisable comme chaussons magnésie, ça demande d'essayer. Voilà, donc je veux bien vendre mes sponsors, mais je ne le ferai pas parce que c'est un peu faux. Je peux juste dire qu'il faut aller essayer et trouver la chose qui vous va, quoi. Après, bien sûr, mes sponsors, Madrock, Béal, tous les sponsors que je peux avoir autour de moi, pour moi, je trouve que c'est du bon matos, mais ça reste très personnel. Il faut essayer, quoi. Essayer.
Comment tu fais les jours où ça se passe pas bien dans ta tête, où t'as pas le moral, par exemple, où t'es triste, je sais pas, l'exercice quand même, tu le fais une fois, 10 fois, 100 fois, 150 fois,
ouais,
avant d'y arriver. Est-ce qu'il y a des jours où tu traînes un peu de la patte, ou tu t'arrives pas à te motiver?
Ces jours-là où j'arrive pas à me motiver, il y a pas de jour où j'arrive pas à me motiver. Si j'arrive pas à me motiver, je reste chez moi, en fait. Je reste chez moi parce que ça veut dire que mon entraînement, il servira à rien. Mais ça arrive pas. Ça n'arrive pas. Quand j'ai une baisse de motivation, un coup de mou, un coup de fatigue, je reprends juste à mes objectifs. Voilà, mes objectifs, et je me pose juste la question, est-ce que toi, pendant que tu te plains là, d'être fatigué, d'avoir mal aux doigts, mal aux bras, pas envie d'aller t'entraîner ou faire de l'escalade, pendant que je me dis ça dans ma tête, je me dis aussi, est-ce que tous les autres, ils pensent ça? Tous les autres qui vont se concurrer, tous mes concurrents là en compétition, ils pensent ça aujourd'hui? Je suis pas sûr. Et donc, va t'entraîner. Et là, ça me rebooste un peu. Après, j'essaie de trouver les stimuli qui peuvent m'aider à pousser. Voilà, quand j'arrive dans la salle, si c'est tout seul, oui, tu peux dire tout ce que tu veux, mais quand tu vas te retrouver tout seul, c'est quand même dur d'y être à fond. Donc, si tu profites d'être avec, tu essayes de faire en sorte d'aller à un endroit où il y a du monde, pour te motiver, parce que tu sais que tu vas être regardé, donc ça va te motiver à être un peu plus fort. Je sais pas, je sors mon téléphone et je vais faire des vidéos, ça va me motiver à montrer à ma communauté, à leur dire, vas-y, je vais me filmer un peu aujourd'hui, et au moins j'ai pas le choix d'être fort parce que je veux le montrer sur les réseaux sociaux, quoi. Et tu trouves un stimuli qui te permet de te pousser. Donc et là ça vient.
C'est ta première participation au JO là, l'année prochaine?
Exactement, et la première participation de l'escalade aux Jeux Olympiques aussi. Donc, oui, c'est une première.
Ah oui.
On est les premiers qualifiés français, sur une première aux Jeux Olympiques. C'est une première et ça va être magnifique.
tu les crains toujours, les Japonais, là, ou pas? Ou est-ce que tu vises l'or quand même?
Ah, bien sûr que je vise l'or. Si je vais à une compétition, c'est pour viser la première place. Donc, on n'est pas là. Et comme j'ai dit, ils ont une population énorme, mais pour l'instant, eux comme moi, on est qualifiés. Et voilà. Donc, on est qualifiés au même moment. Il n'y a que 20 places. Il n'y a que 20 personnes qualifiées aux Jeux Olympiques en escalade. Je fais partie de ces 20-là, et avec mon frère aussi. On a deux chances de gagner, vu qu'on est deux. Non, il n'y a personne qui me fait peur. La seule chose auquel j'ai toujours peur et j'aurai toujours peur, c'est de ne pas être au meilleur de moi-même ce jour-là. Mais c'est ce que je travaille à l'entraînement, c'est d'être le plus en forme possible, quoi. Arriver dans mon pic de forme, être plus en forme possible, physiquement comme mentalement.
Tu fais les trois épreuves au JO ou pas?
Ouais.
Ou est-ce que tu fais qu'une seule des trois?
Les trois. En gros, aux Jeux Olympiques, ils ont donc les trois épreuves que j'ai définies un peu avant. Ils ont fait un petit mélange des trois. Un peu comme un triathlon où on commence par, on commence par une discipline, après il y a l'autre et ainsi de suite. Là, c'est un peu pareil. On commence par la difficulté. Dès qu'on a fini la difficulté, on commence par la vitesse. Dès qu'on a fini la vitesse, on passe au bloc. Et dès qu'on a fini par le bloc, on passe par la difficulté. Voilà. Et en gros, ils font un enchaînement. Ils ont créé. Ça reste les disciplines intrinsèquement, ça reste pareil. Mais la gestion de l'effort, elle est un peu différente.
Ok. T'as des gens en particulier que tu vas admirer, Mika? Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent?
À part ma famille, personne. Personne. Même si jamais inspiré de ma famille, j'ai d'autres personnes que ma famille, que ce soit mon frère, ma mère, mes sœurs. Pour moi, c'est la plus grande sous-inspiration, dans le bon comme dans le mauvais, en fait. On voit, c'est les personnes avec qui on est le plus en contact. Les personnes qui font des choses bien autour de nous, on le remarque. Dans notre famille, on le remarque et ça nous impacte aussi. Quand ils font des choses mauvaises, nous, ça nous dit, il faut pas que je répète la même chose. Et c'est ce qui s'est passé. Je pense que c'est pour ça qu'on a tous, on a tous réussi dans notre famille, malgré qu'on part de zéro, et vraiment de zéro. Et, Et là, ouais, c'est parce qu'on s'est toujours fié à nous et pas aux autres, en fait, pas aux autres, parce qu'on n'a pas le même vécu, pas la même chose. Et donc, j'ai pas d'idole à part ma famille, parce que c'est eux qui m'ont amené là aujourd'hui. Hein.
Eh bien, non, mais c'est beau, c'est bien.
oui, bah, c'est on beau, pense. Après, nous, l'histoire, elle était un peu plus compliquée que ça. Voilà, on n'a pas eu les moyens que tout le monde, les mêmes moyens que tout le monde. Nos origines font que bah, ma mère a été divorcée, mon père africain camerounais, c'était pas un très bon père, et du coup on a eu pas mal de choses mauvaises. Ma mère avait pas de quoi forcément nous faire vivre, et du coup elle a dû se battre contre la vie, en fait, pour nous, et tout ça nous a forgé, ouais, nous a énormément forgé à être responsable, à s'entourer des personnes qui nous poussent vers le haut, à montrer, bah, à pas reproduire ce que nos parents ont fait, à reproduire ça et plutôt essayer d'être bien mieux. Et c'est ce qu'on a mis en place.
C'est quoi ton rêve du coup, Miga, aujourd'hui?
Mon rêve aujourd'hui, c'est de pouvoir faire vivre toute ma famille très bientôt. Voilà, le plus tôt possible. C'est que toute ma famille n'ait plus à penser à comment je dois faire pour faire vivre mes enfants ou vivre correctement, ou est-ce que j'ai besoin de travailler, ou est-ce que j'ai besoin de... Voilà, je veux que toute ma famille soit libre de faire ce qu'elle veut. Voilà, libre de faire ce qu'elle veut. Et de nos jours, la liberté de faire ce que tu veux... tu peux l'avoir, mais la liberté de décider de si tu veux arrêter de travailler, si tu veux t'occuper de tes enfants, si tu veux voyager, si tu veux profiter de la vie différemment, comme très peu de monde peut le faire, ça te demande de l'argent déjà. Et c'est pour ça qu'on bosse dur avec mon frère pour avoir un maximum d'argent, de construire un maximum... notre vie pour ouvrir des salles d'escalade, ouvrir des choses à notre nom, des business à notre nom, pour que dès que ça fonctionne, mes parents, avant qu'ils partent, ils aient la meilleure fin de vie possible, mes frères et sœurs et mes neveux et nièces manquent de rien, voilà, manquent de rien, et qu'on puisse partager tout ça, quoi. On fait pas ça que pour nous. D'abord on le fait pour notre famille, et après il y a nous, et après il y a le reste du monde. Voilà.
Tu comptes t'arrêter un jour, Mika, de grimper?
Je pense, oui. Je pense que je vais m'arrêter de grimper. Je vais pas m'arrêter de m'entraîner, parce que j'adore m'entraîner. Mais m'entraîner en général, faire du sport en général, me dépenser, finir rincé, ça j'adore ça. Mais l'escalade, je pense que oui, je vais arrêter. Mais je vais beaucoup travailler différemment. Voilà, moins dans l'entraînement, mais plus dans les salles, dans mes business. J'ai bossé, et je pense que ça sera du sport aussi, parce qu'on a des objectifs très très grands, très très hauts, comme j'ai dit. Hein, je vais faire vivre toute ma famille, tous mes proches autour de moi, et pour ça, ça demande pas juste d'ouvrir son petit restaurant au bord de la plage. Ça demande de bosser très très fort, et c'est ce qu'on va mettre en place.
Trop bien. Dis, sur une semaine type, pour revenir un peu sur la question, ouais. Toi tu fais quand même beaucoup beaucoup d'heures d'escalade.
Ouais.
Si tu devais te débarrasser d'un truc qui t'embête, t'enlèves quoi?
Dormir. Voilà, c'est quelque chose qui...
Ça prend trop de temps.
Ça prend du temps, mais c'est surtout que c'est pas agréable. Parce que tu dors, t'endormir c'est agréable, mais le réveil il est jamais agréable. On n'a jamais un réveil agréable, sauf quand tu mets pas de réveil. Sauf que ça, t'es obligé d'en mettre un tout le temps. Donc j'enlèverai ça, en fait. J'enlèverai le sommeil, au moins. Si j'ai pas besoin de dormir, je ferai pas forcément plus, mais il y aura rien de désagréable, quoi. Il y aura rien de désagréable dans mes journées. Et pour l'instant, le truc le plus désagréable, c'est aller me coucher et me réveiller, parce que je vais souvent me coucher à des heures où j'ai pas envie de me coucher, et je me réveille souvent à des heures où j'ai pas envie de me réveiller. Et des fois, si j'ai envie de me réveiller plus tôt, mais il faut que je me réveille plus tard. Des fois, j'ai envie de me réveiller plus tard, mais je dois me réveiller plus tôt. Et du coup, plutôt ça, ouais. Si c'est ça que j'ai enlevé, c'est ça.
Est-ce que tu ne penses pas qu'avec tout ce que tu vis là et le fait que tu sois un gros bosseur, finalement, le dépassement de toi, c'est un peu devenu ta petite drogue?
Moi, je le vois pas trop comme ça parce que j'aime vraiment la vie en général. Bouger, j'adore bouger, j'adore faire plein de choses. Mais après, quand j'entends autour de moi, je sais que ma copine, elle fait que de parler, elle fait que de dire à tout le monde que j'ai la bougeotte. J'arrête pas de faire des choses, j'ai besoin de faire des choses tout le temps, pas forcément toujours physique, mais toujours en train de faire des trucs. C'est difficile pour moi de me poser, je le ressens pas comme ça, mais je pense que j'ai besoin de faire un truc qui me prenne du temps, un truc constructif, un truc où si tu le fais, ça va être utile sur du long, et j'ai besoin de bosser, donc j'aime pas faire des trucs à la va-vite. Donc par exemple, je donne un exemple tout simple d'un truc, on fait le ménage à la maison. Je déteste juste me faire un peu de ménage pour rendre ça propre. Quand je fais du ménage, bah, je déplace des meubles, je nettoie, j'enlève le lit de l'appart et je nettoie les coins comme j'en ai jamais fait. Voilà, je le fais vraiment, quoi. Il y a un réel changement. Voilà, j'aime jardiner parce qu'il y a des choses qui poussent derrière si tu t'en occupes bien. Voilà, j'aime bricoler parce que ça va durer à long terme ce que tu bricoles. Voilà. Je fais des choses qui durent, donc on va dire que je suis plus accro, je sais pas comment on pourrait expliquer ça, mais à faire des choses, quoi. Voilà, à bouger tout le temps, à faire des choses.
C'est quoi du coup la prochaine étape pour toi du coup? C'est quoi, c'est directement JO ou il y a des compètes avant?
Non, bien sûr, il y aura des compètes fin d'année, il y aura les championnats d'Europe là qui sont reportés, mais ça va être fin d'année. Donc non, là vis-à-vis des compètes, il y en aura une fin d'année, il y aura les championnats d'Europe. Ça va être important, ça reste un championnat d'Europe. Après, bien sûr, l'objectif, le but là actuellement, c'est en août prochain les Jeux Olympiques, et il y aura des compétitions entre qui vont me permettre de me tester, permettre d'affiner mon entraînement. Mais sachant que je vais quand même à une compétition pour gagner, quoi. Même si elle va me permettre d'affiner des choses après, j'y vais quand même pour gagner, quoi.
Bon, super. Mika, ça va bientôt faire une heure qu'on discute. Ouais. J'ai trois dernières questions pour toi.
Ouais.
La première, c'est si tu dois parler à quelqu'un ou quelqu'un s'adresse à toi qui te demande des conseils sur comment se lancer dans l'escalade, c'est quoi selon toi les premières étapes?
Grimpe, en fait, il faut juste pas se poser de questions. On est souvent en train de chercher plein de questions. Qu'est-ce que je dois faire? M'entraîner? Comment? Grimpe le plus possible. L'escalade, la difficulté de l'escalade, c'est la diversité de ce sport. C'est que les mouvements, il y a plein de mouvements différents. Il y a des prises différentes à tenir. Il y a des murs différents, des parcours différents. Tout est tout le temps changeant. Et pour se sentir à l'aise, il faut grimper et être régulier. Voilà. Donc, avant de penser à X choses, allez grimper une, deux, trois fois par semaine et soyez régulier. Et là, comme ça, vous allez progresser. Et quand un moment ou un autre, vous allez sentir le cap où c'est bloqué, c'est là, à partir de là, on peut se poser des questions. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Voilà. Mais d'abord, allez grimper. Faites-en.
Ok. Tu parlais tout à l'heure des différents réseaux sociaux. Comment on fait pour te suivre? Du coup, tu peux nous refaire la liste?
Ouais, bah du coup, pour me suivre là sur les réseaux, nous on utilise beaucoup Instagram, hein, sur les Frères Mahom, hein, bien sûr, les Frères Mahom sur Instagram, sur Facebook. Instagram, ça va être plus utilisé pour des vidéos journalières, tous les jours, tous les deux jours, ou ce qu'on fait un peu à l'entraînement, ou un mouvement, un exercice, un truc. Facebook, on va relier pas mal les choses et des grosses informations, les articles, les news, les compétitions. Et après, tous les autres réseaux sociaux, TikTok, c'est pour s'amuser un peu. Voilà, vraiment, c'est Instagram, Facebook, c'est le principal. Et après, tout le reste, on s'amuse un peu sur le reste. C'est un peu nos réseaux sociaux loisirs.
Ça roule. Dernière question, Mika, pour toi.
Yes.
Tu as commencé l'escalade assez tôt, finalement. C'est ton frère qui t'a un peu traîné dedans, je suppose. Tu m'as dit que tu avais grosso modo 11 ans, si je ne me trompe pas, c'est ça?
Ouais.
Si tu rencontres Mika, qui a 10 ans, là, maintenant, tu lui dis quoi?
Continue tes études. Ouais, je lui dirais continue tes études parce que j'ai arrêté l'école tôt. J'ai arrêté l'école post-bac, en terminale, avant le bac. Et parce que j'aimais pas l'école, comme les trois quarts des gosses, en fait, des ados. Et à ce moment-là, je me rendais pas compte que pour avoir quelque chose, il faut bosser dur quand même. En fait, il faut tout le temps bosser. si tu veux quelque chose que tu aimes, même être dans le haut niveau, être le meilleur du monde ou être moniteur d'escalade, ou, parce que je le suis et j'ai passé mon diplôme pour ça, pour faire la meilleure roue, ben, il va falloir bosser. Il va falloir bosser dur. Et en fait, l'école, c'est facile. On t'accompagne pour. Et moi, je me suis retrouvé cette période tout seul à devoir me débrouiller tout seul sur, pour mes examens, pour progresser. Bon, il y avait mon frère, du coup, on était ensemble là-dessus. Mais c'était deux fois, trois fois, peut-être cinq fois plus dur que l'école. Ou l'école où tu as des professeurs qui sont là pour t'expliquer pour, quand tu as besoin des choses, qui t'accompagnent, quoi. Qui t'accompagnent, même si ceux, ils accompagnent pas forcément au mieux du mieux, mais il y a quand même quelqu'un qui est présent. Et c'est plutôt la chose que je dirais au petit Mika de 10-11 ans. Continue l'école, va en fac, va à la fac, et tu pourras t'entraîner facilement, sans penser à la suite. Parce que maintenant, de nos jours, tu peux faire tes études et aller loin dans tes études tout en faisant du sport. Bon, ça va prendre du temps, tes études, mais tu peux mixer les deux assez facilement si t'es motivé. Donc, voilà, c'est ce que je lui dirais. Mais bon, maintenant, on y est, hein. On ne peut plus revenir en arrière.
Non, puis t'as bien réussi, faut pas commencer.
Ouais, ça va, on est en plein dedans. Mais pas encore réussi, mais on est en plein dedans. Voilà.
Merci Mika pour ton temps, c'était génial de faire connaissance.
Un plaisir.
On te souhaite bien du courage pour les compétitions à venir.
Merci.
Et puis, au plaisir de suivre les prochaines vidéos sur les réseaux.
Carrément. Bah, moi aussi, je suivrai un peu ce que vous faites et bonne continuation pour la suite. Et merci de partager un peu ce qu'on fait. C'est cool.
Avec plaisir. Ciao Mika.
C'est cool. Salut.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins deux personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, pensez à vous abonner. À bientôt.